Merci beaucoup encore. J'ai trouvé vraiment pertinent aussi que vous nous donniez même des recommandations, comment est-ce qu'on peut agir aussi en tant que qu'aide des fois pour une personne qui nous serait proche, comment est-ce qu'on peut intervenir aussi. Des fois, on a ce malaise-là de pas savoir quoi faire, comment intervenir, et puis simplement, comme vous disiez, là, d'avoir cette écoute active-là. Et ça nous conduit vers aussi ce que je voulais qu'on voit comme étude. Ce soir, on a vu dans le passé, à travers les études qu'on a eues, pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Et on avait tout de suite dit d'emblée que je peux pas apporter de réponse à ça. Et c'était d'ailleurs la première étude, à savoir que parfois on va vivre dans la souffrance sans avoir de réponse de ce que Dieu va nous révéler. Un peu comme Job, on citait tantôt que Job n'a pas eu de réponse venant du ciel, mais il devait garder la foi, continuer de persévérer. Une deuxième chose qu'on voyait, c'est qu'à travers la souffrance, pourquoi est-ce que Dieu la permet? C'est que Dieu utilise la souffrance comme un moyen d'attirer notre attention, qu'on se tourne vers lui. La souffrance peut être un moyen, une sonnette d'alarme pour que finalement on se tourne vers lui. Dieu permet la souffrance aussi parce que c'est un moyen qu'il utilise pour nous guider. C'est ce qu'on voyait aussi à travers différents textes. Et c'est un moyen que Dieu utilise aussi pour nous former, pour nous transformer. On parlait de l'affliction qui conduit à la patience ou à la persévérance, à la victoire dans l'épreuve. Dieu nous emmène à faire des pas. Et le premier de ceux-ci, ben, c'est souvent la souffrance. Et ce soir, ce que je veux que l'on voit avec le temps qu'on a devant nous, c'est que Dieu utilise la souffrance pour nous unifier. L'union fait la force. On a déjà entendu ça, cette expression-là. L'union fait la force. On pourrait citer, par exemple, les premiers chrétiens dans l'Église primitive. Ils étaient persécutés. Puis qu'est-ce qu'ils faisaient naturellement? Ils se rassemblaient, ils se regroupaient. Pierre, il s'adresse à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie. Bien, ils sont étrangers et dispersés, mais ils sont quand même regroupés en petits groupes, même s'ils sont persécutés. Les chrétiens cherchaient à être ensemble. On pourrait citer, par exemple, dans le monde, des communautés très pauvres dans le tiers-monde. Et qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils vont naturellement se regrouper. L'aspect communautaire va devenir très fort dans ces portions du monde-là où justement ils sont très pauvres. Alors la vie familiale, la vie communautaire, les gens vont se regrouper. Alors, on peut parler par exemple de survivants qui ont vécu quelque chose. Ces gens-là vont vivre un rapprochement entre eux qu'ils n'auront jamais vécu avec d'autres parce qu'ils ont survécu à quelque chose dans une période difficile. Des vétérans de guerre, par exemple, ils vont... Quoi qu'il arrive, même s'il y a des années qui se sont passées, quand ils se retrouvent, il y a des liens qui sont restés parce qu'ils ont combattu à la guerre ensemble. On pourrait parler, je vais même apporter comme exemple, Moïse, quand il était tout seul, hein, les bras dans les airs, qu'est-ce qu'il avait besoin à un moment donné? Il avait besoin de soutien. Parce que là, il gagnait la bataille, tant on s'entend qu'il avait les bras dans les airs, mais c'est une simple image pour nous montrer que cette bataille-là, elle a été accomplie dans cette image que Dieu a donnée que Moïse, oui, pouvait garder les bras levés, puis en ayant les bras levés, il gagnait la bataille, mais à un moment donné, même Moïse n'était plus capable. Puis il n'était pas sur le champ de bataille, là. Il fallait juste qu'il tienne les bras dans les airs, mais il trouvait ça difficile. Alors, on a placé Aaron, puis Hur, deux serviteurs qui sont venus puis le soutenir, et qui ont fait une équipe avec Moïse. Et finalement, le corps de Christ, c'est la même chose. Dieu nous a donné un merveilleux exemple qui est le corps de Christ. Il n'y a pas, c'est pas un exemple qui tombe comme ça par hasard, qui a aucun lien avec notre compréhension. On comprend c'est quoi un corps, hein? On en a tous un. Et puis Dieu emploie cette expression-là parce qu'elle est logique, parce qu'on a des choses à comprendre avec ce que c'est le corps de Christ et cette unité-là que l'on a en lui finalement. J'aimerais je vais vous faire tourner dans quelques versets. Premièrement, commençons dans Éphésiens. Ce que je vais faire, on va lire juste en guise d'introduction un ou deux versets dans Éphésiens, puis après ça, on va aller lire dans Corinthiens. Mais commençons avec Éphésiens, puisque je veux qu'on place la table, premièrement, sur ce que c'est le corps de Christ. Éphésiens 1, Un volontaire qui voudrait me lire les versets 21 et 22. Dieu utilise la souffrance pour nous unifier. Est-ce que Dieu veut que son corps soit uni? Bien, absolument. Puis Dieu veut que dans l'unité qu'il y a dans le corps, bien, que cette unité-là soit à disposition aussi des membres qui peuvent être dans la souffrance. Éphésiens 1, verset 21-22, quelqu'un veut lire ça? Serge, s'il te plaît. Il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église. On a traduit chef, vous savez que le mot tête et chef, c'est le même mot. Hein, on dit des fois un couvre-chef, en grec, c'est la même chose. La tête et le chef, c'est le même mot. Il l'a donné pour chef, il l'a donné pour tête suprême à l'Église. Colossiens nous dit la même chose, il est la tête du corps de l'Église. Là, je l'ai dit un petit peu tout croche, mais il est la tête de l'Église. C'est ce qu'il dit dans Colossiens 1, 18. Et verset 23, quand on était dans Éphésiens, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Tournez dans Éphésiens 4, on est tout prêt. Versets 15 et 16, quelqu'un qui voudrait le lire? OK, Danny. Alors, celui qui est la tête, Christ, continue, verset 16. Mais non, tu l'avais bien lu, là. Il était écrit le mot tête? OK. OK, alors tu as des mots vraiment intéressants qui représentent vraiment l'idée du corps, justement. Là-dedans, je vais réutiliser les mots parce que je ne me souviendrai plus tout ce que ces mots qui est employé dans ta traduction, mais c'est de lui, grâce à tous les liens de son assistance, les jointures, tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Bon, premièrement, c'est qui la tête du corps? C'est Christ. On n'apprend rien nécessairement de nouveau, mais on est tous reliés à la tête. Tous les membres de notre corps sont redevables à notre tête. Y a-t-il un membre de notre corps qui n'obéit pas à la tête? Il n'y en a aucun. En tout cas, je pense. J'imagine qu'il n'y a aucun membre qui fonctionne pas si la tête n'est plus là. Hein? Si on coupe le tronc cervical, là, si on coupe le cerveau, là, il n'y a plus rien qui marche. Hein? La tête elle est au-dessus de tout autre membre. Alors, c'est grâce à la tête, et ce que les Écritures viennent de nous dire, c'est grâce à Jésus qui finalement va nous unifier, chacun d'entre nous, et nous amener à être tous les liens de son assistance, qu'on va devenir bien coordonnés, formant un solide assemblage, qu'on va devenir son corps, qu'on va devenir un seul corps, mais plusieurs membres. Maintenant, revenez avec moi, allez plutôt dans 1 Corinthiens 12. Les versets 20 à 27 qu'on va lire. Je sais que c'est des textes qu'on connaît beaucoup, mais j'aimerais qu'on les lise justement avec la perspective de la souffrance, mais au sein d'un corps, au sein d'une assemblée, au sein de membres qui sont coordonnés par une même tête. Une personne qui voudrait lire 1 Corinthiens 12, 20 à 27, Michel? OK, merci Michel. Je vais prendre le verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Ce qu'on vient de dire, c'est que tous les membres sont redevables à la tête. Hein? On est le corps de Christ et chacun d'entre nous, on appartient à la tête. Mais de l'autre côté, bien qu'on ait plusieurs membres puis qu'on ait chacun d'entre nous redevables à la tête, qu'est-ce que Dieu a fait autour de nous? Il a placé d'autres membres qui sont placés avec nous et qui, eux aussi, sont redevables à la tête. Mais ces membres-là qui sont près de nous, est-ce qu'ils sont utiles ou pas utiles? Chacun d'entre nous, on est redevable à la tête. Utile? On peut pas s'en passer. Mais le verset 20, on a commencé. Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Plusieurs membres et un seul corps. Puis, l'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds, « Je n'ai pas besoin de vous ». Alors, tous les membres qui sont près de nous sont utiles, bien que chacun des membres sont redevables à la tête, chacun des membres qui sont aux côtés de nous sont utiles et nécessaires, et on ne peut pas dire, ce que les Écritures viennent de nous dire, c'est « J'ai pas besoin de toi ». Bien qu'on soit chacun d'entre nous attaché à la tête. Alors, je pose la question, il nous reste quelques minutes, je pose la question, quelle leçon est-ce qu'on peut tirer de cet exemple-là, du corps, en ce qui concerne, par exemple, la souffrance? Quel exemple est-ce qu'on peut tirer du corps ou quelles applications est-ce qu'on peut tirer de l'exemple que Dieu vient nous donner pour nos propres vies, même à l'intérieur de la souffrance? Oui, Claude. Oui. Oui. C'est ça. Absolument. C'est une vérité que Dieu nous enseigne, verset 26. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Pourquoi? Parce qu'on fait partie du même corps. Et quelle est la partie de notre corps qui interprète toutes ces informations-là? La tête. C'est la tête qui interprète tout ça. Et ça se peut que ma main gauche, elle souffre. Puis que oui, la tête, elle a reçu l'information que la main souffre. Puis la tête, elle, qui reçoit l'information, est capable d'envoyer de l'information à d'autres membres, puis de dire « prends soin de la main ». C'est ça l'application que Dieu nous donne à travers le corps, qu'on va naturellement prendre soin de nos propres membres. Vas-y, non. Oui. Oui. Mm-hmm. C'est ça? C'est ça? Il faut l'accepter comme ça. Chacun des membres, quelle que soit la force, Dieu, on vient de lire tantôt dans Éphésiens 4, selon la force qui convient à chacune de ses parties. On n'a pas choisi la force que l'on a, la capacité que l'on a. Dieu nous l'accorde. Puis Dieu nous dit, avec ce que tu as, avec le don que tu as, avec la force que tu as, mais ben fais la part que tu es capable d'apporter à tout le corps. Et j'allais vous donner l'exemple. Est-ce qu'on peut... quelqu'un qui est spécialiste de la santé, là, peut peut-être répondre. Quels muscles sont sollicités quand on fait un sprint, par exemple? Hein, mettons, je cours le 100 mètres. Là. Quels muscles sont sollicités dans mon corps? Le cœur? Y en a-tu d'autres? Les cuisses? OK. Les bras, par rapport? Bras. Ça court pas des bras? Hein? Les mains? Hein? Puis même le nez, y en a qui forcent du nez, là. Hein? Mais on est-tu capable de dire que tous les muscles forcent pour un sprint? Puis y en a qui ont pas rapport de vouloir forcer, mais ils forcent quand même. Hein? Mais c'est ça qui fait que le gars, il court vite. Puis, ben, chacun des muscles de ce qu'il peut apporter, il va le faire, il va le donner, et ça va donner une performance au sprint, par exemple, au 100 mètres. Et la personne qui va se dire, moi, pour économiser de l'énergie, je fais juste forcer des cuisses. Hein? Il va avoir de la misère. Ben, le corps de Christ, c'est ça. C'est exactement, même les membres les plus faibles sont nécessaires. Même les muscles les plus insignifiants qu'on peut penser sont nécessaires à tout le corps. Des fois, ça nous prendrait, pendant un instant, ce qui n'est pas souhaitable, qu'on n'ait plus usage à soit ce membre-là dans notre corps, là, je ne parle pas nécessairement dans l'Église, mais dans notre corps, pour réaliser sa nécessité. Hein, pour réaliser que, hey boy, il me semble que j'étais confortable quand il marchait, lui. Ça avait une utilité. Hein? Essaye de ramasser une scène par terre, là. Hein? Hein? C'est ça, c'est ça. Alors, tous les membres sont nécessaires. Oui, Michel, on va conclure bientôt. Oui. Ouais. C'est ça. Hein, ça revient. Puis tu réalisais que de perdre l'usage d'un de tes membres. C'est ça. C'est ça. Exactement. Alors, il y a différentes choses. Regardez le verset 25. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également quoi? Soin les uns des autres. Quelle que soit la force, quelle que soit la capacité, quelle que soit notre utilité dans le corps, chacun des membres doit avoir soin les uns des autres. Comme je disais tantôt, tous nos membres, on est attachés à la tête. On est redevable à la tête, chacun d'entre nous, on est redevable à la tête. Mais de l'autre côté, la tête qui coordonne tout le corps, chacun des membres doit y être sensible. Et si un membre souffre, la tête le sait, et elle est capable de communiquer cette information-là aux autres membres aussi, comme je disais tantôt, et on va en prendre soin. Je cite souvent mon exemple. Vas-y, Claudette. Tu avais levé la main. Et tu veux dire qu'avec ce qu'elle peut apporter, elle nous édifie. Ah oui. C'est ça, exactement. Absolument. Si j'ai de la difficulté, puis un frère ou une sœur vient m'encourager, est-ce que c'est Dieu qui l'envoie? Ben oui. Si j'ai fait un péché puis qu'un frère vient de m'avertir, ou une sœur, est-ce que c'est Dieu qui peut me l'avoir envoyé? Absolument. Si je suis dans le besoin puis qu'un frère ou une sœur vient de me donner de ses biens, est-ce que c'est Dieu qui prend soin de moi à travers l'autre membre? Absolument. Parce qu'on est tous coordonnés par la tête et on prend soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tout le corps souffre avec lui. Si un membre est honoré, bien, tout le monde se réjouit avec lui. Je trouve ça bien qu'on ait l'occasion de partager les dimanches soirs, par exemple, de ce que Dieu fait dans nos vies. Et je trouve important et bien qu'on ait l'occasion de partager nos souffrances, qu'on ait l'occasion de partager nos difficultés, qu'on ait l'occasion de partager nos joies. Mais toutes ces choses-là, pour que, évidemment, il y a des choses qui ne sont pas nécessairement toujours évidentes de partager en assemblée. On peut en partager avec une ou deux sœurs, ou peu importe, avec un plus petit groupe. Mais je crois qu'il doit absolument avoir cette ouverture dans le corps de Christ que de dire, il y a une souffrance qu'un frère ou une sœur vit, et on veut l'entendre, et on veut en prendre soin. Et je donne souvent mon exemple, hein, on va terminer là-dessus. Là, bien, vous avez chacun d'entre vous sûrement déjà essayé de clouer un clou. Pendant que vous clouez, paf! En plein sur le pouce. Et là, qu'est-ce qu'on fait, hein? Bien là, il y a peut-être deux possibilités. Naturellement, il n'y en a pas deux, OK? Mais faisons semblant que mon pouce, il peut être indépendant du reste du corps. Il pourrait se dire à l'autre main, « Mais franchement, t'aurais pu viser un peu mieux que ça. T'as regardé où, toi, les yeux pendant ce temps-là? Puis toi, les oreilles, t'as pas entendu qu'à un moment donné, on a perdu l'attention? Puis à un moment donné, ça peut peut-être même se retourner contre la tête. Tu pensais à quoi, Dieu? Tu pensais à quoi pendant ce temps-là? Tu m'as-tu oublié? » Puis là, je regarde, j'ai reçu le coup sur moi, là. Le pouce ne va pas penser comme ça. Des fois, dans la souffrance, il faut se garder d'accuser le reste du corps ou d'avoir cette attitude qui je pense, qui est vraiment alimentée par nature pécheresse, d'accuser ou de pointer du doigt ou d'en vouloir aux autres. Et plutôt que d'utiliser la souffrance pour être unifié, que la souffrance devienne l'occasion d'amertume, de division, de séparation et d'éloignement. Mais naturellement, chacun d'entre nous, notre corps ne fonctionne pas comme ça. Parce que même si la main, là, même si les yeux regardaient ailleurs, même si la main a mal visé, qu'est-ce que le pouce y fait, lui, quand il a mal? Il a mal, hein? Puis la tête qui reçoit l'information, elle a bien compris qu'il souffre. Et la tête le comprend très bien. Jésus, Dieu, comprend très bien la souffrance qu'on peut vivre parce que il la voit, là, notre souffrance. Et ce qu'il fait, c'est que là, il va dire à la main, « Viens prendre le pouce. » Tu sais, puis approche-le proche du cœur comme ça. Puis qu'est-ce que le cœur, il fait, lui? Bien, il pompe le sang à un point tel que tu as même l'impression de l'avoir dans le pouce. Hein? Pouf, pouf, pouf. Tu as le pouce dans le cœur. Et là, tu as la main qui réconforte le pouce. t'as les yeux qui compatissent et qui vont pleurer, t'as même les jambes qui vont danser pour essayer de faire disparaître toute la souffrance. Il y a la bouche qu'il faut surveiller, par exemple, pendant ce temps-là. Hein? Mais tout notre corps est concentré et concerné par la souffrance d'un seul membre qui souffre. Et notre corps réagit bien. Dieu nous a donné cet exemple-là du corps parce qu'il réagit de la même façon. Dieu entend nos souffrances et Dieu utilise les membres qui sont près de nous pour nous unifier puis en prendre soin, puis l'entourer. Et puis, ça serait pas long, Angela, j'allais dire, là, c'est un... Tu sais, on a un accident comme ça qui arrive, on parlait tantôt d'un accident, on se brise l'épaule. Des fois, il y a une souffrance qui peut être latente, qu'il ne faut pas oublier. Il faut continuer d'être sensible à ça. Là, et là, c'est pas un partage d'une souffrance personnelle, là, je donne ça en exemple. À Noël dernier, il y avait un morceau de verre par terre, je me l'ai rentré dans le petit orteil, et puis il n'est jamais ressorti. Il est encore là présentement. Je suis pas capable de le sortir, j'ai essayé de me couper un petit peu l'orteil pour essayer de sortir ça. Il est encore là. C'est peut-être mon écharpe dans la chaise, je ne sais pas. Mais ça fait bientôt 6 mois que je l'ai. Mais la souffrance, je la sens encore une fois de temps en temps. Et mon corps compatise encore avec ma petite orteille. Il est encore sensible. Et c'est ma petite orteille. Pourtant, c'est un membre qu'on pourrait dire inutile, hein? Ça sert à rien. Mais pourtant, je la sens encore. Puis mon corps est sensible encore. La tête reçoit l'information encore que la petite orteille est dans la souffrance. Puis communique aux autres membres, ben, tu peux pas faire grand-chose. Il est là, il est dedans. Qu'est-ce que tu peux faire pour ça? Je sais pas ce que je peux faire pour ça. On vous donnera vos recommandations plus tard, là. Mais, ma petite chirurgie, tu me feras ça de l'autre plus tard. Mais bref, ce que je veux dire par là, c'est que des fois, il y a une souffrance qui est là, puis que, en tant que membres les uns des autres, étant un seul corps attaché, chacun d'entre nous, à la tête, on doit être sensible à l'Esprit de Dieu, on doit être sensible à ce que Dieu nous montre, même nous encourage pour notre frère et notre sœur. Puis ça concerne tous les dons, hein? Ce qu'on vient de passer, là, à travers les dons que Dieu confie à chacun d'entre nous, nos capacités, nos forces, et Dieu fait un solide assemblage qui représente un corps. Oui, Angela? Oui? C'est ça? Et que Dieu nous met à cœur? Certainement, certainement. On est dirigé par l'Esprit de Dieu, par la tête qui est Jésus-Christ. On va terminer en priant, et je vais vous dire merci encore, Mme Vaillancourt, et aussi M. Vaillancourt, hein, parce que l'un ne peut pas dissocier de l'autre. Et puis, vous disiez, c'est elle qui va partager, c'est elle qui a vécu l'expérience, mais je suis sûr que vous pourriez partager aussi sur le thème et nous édifier, nous aussi. Mais merci de votre présence. On va terminer en priant. Seigneur, on vient devant toi pour te louer, pour t'adorer. Seigneur, tu nous as placés en toi. On est tes enfants. On t'appartient. Et maintenant, on peut dire qu'on est attaché à toi, Seigneur. On fait partie de ton corps et on est redevable à toi qui es la tête. Le chef suprême, Seigneur de l'Église, notre Dieu, notre Sauveur, notre Seigneur. Seigneur, on ne comprend pas toujours la souffrance. La souffrance nous fait beaucoup de mal, la souffrance peut nous apporter beaucoup de doutes, beaucoup d'autres difficultés. Puis en même temps, on croit, Seigneur, que tu es toujours là. On croit que tu prends soin de nous. On croit que tu nous entends continuellement. Même si on est dans la souffrance, tu n'as pas fermé tes oreilles à nous. Tu n'as pas détourné tes yeux, Seigneur, de nous. Merci de ta présence constante. Et merci parce que tu interviens dans nos vies, parce que tu as placé des membres autour de nous. Tu nous as placés dans un corps et tu interviens dans nos vies par des frères et des sœurs qui prennent soin de nous. Seigneur, on veut te louer pour ça, parce que tout ce que tu fais est parfait. Tous les liens, Seigneur, toutes ces jointures sont parfaites. Tous les liens que tu crées entre nous sont parfaits. Mais de l'autre côté, on veut se rendre sensible à toi aussi, Seigneur. Dans le nom de ton Fils Jésus, qu'on te prie ces choses. Amen.